Donc voilà, une fois que vous avez vu tous les personnages, les principaux personnages du livre d'Esther, on vous invite alors à voir notre texte, Esther 1, du chapitre 1 à 12. Esther 1, chapitre 1 à 12, avec l'objectif de simplement jeter un coup d'œil dans cette histoire afin de retirer au moins une ou deux leçons pratiques pour nous, comme Véronique et David ont déjà partagé ici. Alors, Esther, chapitre 1, des 1 à 12. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fut un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fut pour tous le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bijou et des pourpres à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre, des lits d'or et d'argent reposait sur un pavé de
porphyre.
Pour moi, c'est déjà difficile le français. Alors, mon pas de lettres. Des marbres, des nacres, des pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Et il avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à... Donc il y en a 7 eunuques, là je pense, alors... Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusait de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Bon, voilà, c'est notre texte pour ce matin. Donc, l'Empire perse, c'était dans son expansion, son apogée. C'était une époque de grande prospérité. L'Empire, il avait commencé à s'expandir quand ils ont renversé les royaumes babyloniens avec Cyrus le Grand. Et Assuérus, c'est un arrière-petit-fils de Cyrus, celui-là qui a renversé l'Empire babylonien. Donc, quand l'Empire babylonien a été renversé, il y avait des Juifs qui étaient captifs, ils ont été libérés pour retourner, ils étaient libres de retourner à Jérusalem. Mais il y avait des descendants qui ont décidé de rester, comme c'est le cas de Mardoché, qui était un fils d'un de ses descendants. Donc, simplement pour situer un peu. Et comme c'était l'expansion, c'était une grande prospérité dans ce royaume. Quand on lit là le premier verset, il dit que le roi, il a fait un festin pour montrer à tous ces généraux, tous les gens de l'élite, tous ces dignitaires, tous ces gouverneurs de ces 127 provinces, sa grandeur, et tout ce qu'il avait fait. Et là, le texte nous dit que ça a duré 180 jours. J'ai fait un petit calcul, ça fait 6 mois. 6 mois de fête. On donc ici, il a fait 2 jours. Hein. Là, c'était 6 mois. Mais vraiment pour montrer la grandeur du royaume. Et dans cette période, et ils ont bien fêté et montré ça, à la fin de ces 180 jours, 6 mois de fête, les rois leur donnent encore 7 jours de fête. Alors c'est un roi qui aimait vraiment la fête. Encore 7 jours, mais la fête pour tous les peuples de la capitale. Et là, tous les grands et tous les petits, ils étaient invités, comme nous dit les textes. Dans les jardins du palais, il y avait cette libéralité du roi, de servir le vin. Ils n'étaient pas forcés à boire. Apparemment, c'était... Mais on voit alors que dans son royaume, les gens, ou les gens qui, même qui étaient anciens, des gens qui appartenaient à ces provinces qu'ils dominaient, ils avaient une certaine liberté ou une certaine tranquillité par rapport à sa croyance et tout ça. Il avait une certaine liberté dans ce sens. Et là, il fait cette fête. Et à un moment donné, il nous dit le texte, qu'il est à la fin de ces 7 jours de fête, déjà pour tous le peuple de la ville. Et il y a un terme là que je dirais qu'il était bien arrosé par les vins. Réjoui par les vins, il dit comme ça. Hein. Bon, ben. Et là, il dit, pour amener la reine, certainement ils ont parlé des femmes ou des choses comme ça, et ils ont invité la reine parce qu'elle avait une réputation d'être une femme très belle. Donc ils voulaient l'exposer. Et aussi avec la couronne royale et tout ça. Donc il envoie ses gardes pour l'amener. Sauf que le texte nous dit que la reine aussi, elle avait pendant ces 7 jours ses invités. Et là, j'imagine aussi qu'elle avait un peu de vin là-bas. Donc, elle refuse cette invitation, cette convocation du roi. On ne sait pas, le texte ne nous dit pas ce qu'il se passe, hein, mais elle était aussi occupée avec ses... Elle ne vient pas. Et là, c'est une affront. Elle a une désobéissance. Elle a offensé le roi publiquement. C'est une honte pour lui. Et lui, il dit, ça ne peut pas rester comme ça. Alors là, il prend ses conseillers. Ils décident ensemble de la destituer de sa position de reine. Ils vont chercher une autre, des jeunes filles pour être sélectionnées afin de prendre sa place de reine. Et dans cette décision, le temps qu'on lit quelques chapitres, ça passe très vite. Donc Esther, qui était élevée par son cousin Mardoché, elle était aussi une belle fille et elle était sélectionnée entre ces filles qui ont été sélectionnées pour qui étaient candidates à être la prochaine reine. Et donc, entre sa sélection, les filles devaient passer minimum 6 mois d'un certain traitement et 6 mois avec des coiffeurs, des choses comme ça, pour être pendant 12 mois préparé pour être présenté ensuite au roi. Et là, c'était la troisième année de son royaume. Et quand Esther, elle va être présentée au roi, c'est la septième année. Donc ça vous donne une idée, entre 3 et 4 ans se sont écoulés. Pendant la sélection d'Esther, elle est amenée dans le palais. Il y a son cousin Mardoché qui vient régulièrement s'apprendre de ses nouvelles. Et ça, voilà, il ne pouvait pas avoir accès directement, mais il avait des intermédiaires qui passaient les emails entre eux. Et dans ce moment de sélection, Esther, elle a plu à tous. À tous ceux qui trouvaient de la grâce, devant les gens qui étaient autour d'elle. Et elle est sélectionnée aussi pour être présente une deuxième fois. Et là, elle devient reine. Et à chaque fois, Mardoché venait toujours pour prendre ses nouvelles. Il était là. Et donc, c'est une de ces fois qu'il vient, ou donc, il prend connaissance qu'il y a deux soldats proches du roi qui ont cédé à un mouvement d'irritation et ils planifiaient de tuer le roi. Et Mardoché, il prend connaissance de ça. Et à ce moment, il fait passer l'information à Esther. Et Esther passe l'information au roi. Et le roi demande une investigation à ce sujet. Et l'investigation va s'avérer que c'est juste ce plan-là. Et les deux soldats qui ont cédé à ces mouvements, ils sont exécutés, ils sont pendus. Et il faut noter ça parce que ça va revenir. Hein. C'est pour ça que c'est important de le dire. Donc, et d'un autre côté, il y a Aman. Aman, un autre personnage qui était présenté aussi, c'est un vizir dans le royaume. C'est une personne importante, je dirais un ministre de l'économie. Donc, Aman, je dirais qu'il a du succès dans ce qu'il fait. Et d'une telle manière que le roi va l'élever au-dessus de tous les autres princes. Va lui donner un destin. Et même les gens dans le palais devaient se prosterner, devaient se courber devant Aman. Mais il y avait Mardoché qui avait aussi une certaine position là-dedans. Il était, disons, un concierge. Et lui, un juif, mais il ne se courbait pas devant Mardoché. Et les autres ont posé des questions. Pourquoi tu t'inclines pas quand il passe? Et ils ont Mardoché n'a pas donné beaucoup plus d'explications. Ils ont décidé de raconter ça à Aman. Et Aman a vu ça, il a vu qu'il était juif, il était très irrité, il était très en colère. Et il a voulu, pas seulement avoir quelque chose contre Mardoché, mais il a commencé à planifier quelque chose pour détruire tout le peuple des juifs. Tous les peuples juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi, de ce royaume perse. C'était 127 provinces. Donc il a commencé à planifier quelque chose. Et, à un moment donné, il arrive vers le roi et il dit, il y a un peuple dont toutes les provinces qui sont un peu infiltrées, un peu partout. Les peuples n'obéissent pas aux ordres du roi. Et ce peuple n'apporte rien au roi, mais moi, je peux, si on les élimine, je peux les apporter une somme de 10 000 pièces d'argent au coffre du roi. Donc, il fait une manière d'apporter de l'argent avec la mort de ces gens qu'il a présentés, les juifs. Et le roi, il lui donne l'accord pour les faire. Donc, lui, il fait ses décrets. Il envoie toutes les provinces du royaume qui dominait à cette époque. Il marque un jour, le 13e du 12e mois, tous les juifs pouvaient être tués, pouvaient être pillés. Et ça comme décret, comme loi. Et une fois que le décret du roi il est fait, avec son sceau, de son agneau, il ne peut plus être révoqué. Donc il avait encore ce plus-là. Bon, Mardoché, dans la ville de Suse, où il était, il a une publication aussi, et lui, il est très choqué avec ça. Il déchire ses vêtements quand il apprend. Il se fait du sac, c'est un coutume d'humiliation. Il crie dans la ville, il va vers le palais. Il ne peut pas entrer dans le palais parce qu'avec son état, il est interdit d'entrer. Mais il était là. Et les gens qui étaient autour d'Esther ont raconté ça à Esther. Elle voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Elle a envoyé quelqu'un pour demander à lui qu'est-ce que c'était. Il lui a apporté aussi des vêtements. Lui, il a refusé les vêtements. Et il a dit tout ce qui s'est passé, ce qu'Aman avait préparé comme plan. L'argent, il a donné aussi une copie de cet décret que les rois ont envoyé. Et il a demandé à Esther d'intercéder pour le peuple juif devant le roi. Esther tout de suite l'envoie aussi. Elle dit, ça fait déjà 30 jours que je n'étais pas appelé devant le roi, alors je ne sais pas quand le roi va me demander à nouveau en sa présence. Et Mardoché, il dit, écoute, c'est peut-être pour cette raison que tu es venu jusqu'au royaume. Ne pense pas que tu vas être épargné toute seule. Et elle, alors, elle décide. Elle dit, ok, il y a cette loi qui dit que si je viens, s'il y a quelqu'un qui vient à la présence du roi sans être demandé, il est condamné à la mort. Sauf si le roi le donne les sept. Donc elle dit, ok, prenez tous les juifs de la capitale, de Sus, et priez, jeûnez pendant 3 jours. Et après j'irai devant le roi. Moi et mes servantes vont faire la même chose. Et après 3 jours, j'irai pour parler avec le roi. Et si j'ai péri, j'ai péri. Donc elle prend la décision. Mardoché alors va faire cette partie-là, demander la prière et le jeûne. Et de son côté aussi, Esther, elle va. Les 3 jours terminés, elle s'habille avec des vestes royales, elle met sa couronne et elle va se présenter devant le roi sans être appelée. Vous connaissez l'histoire. Le roi, quand la voit, il tend le sceptre. Et elle vient, elle le touche. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je pense que la prière lui a donné aussi un bon temps pour la réflexion. Elle n'arrive pas à ce moment-là. Et elle dit, oh, tout de suite, elle débarque. Non, elle dit, elle invite le roi. Elle invite aussi Aman à venir à un banquet ou un festin qu'elle avait préparé pour eux. c'est un roi qui aime bien les festins. Il ne refuse pas, il presse Aman à venir. Il dit tout de suite, allez chercher Aman, on va venir pour les... pour ce que Esther a préparé ce soir. Donc, ils sont pressés, il arrive, il mange, et à un moment donné, il y a cette pause-là pour boire du vin. Le roi, il s'est douté déjà, il dit, elle veut quelque chose. Il demande, Esther, alors, qu'est-ce que tu veux, ma reine? Et là, Esther dit, si le roi trouve bien, de venir encore une fois demain, alors ça passe très doucement, hein. Si vous venez encore une fois demain pour un autre banquet que j'ai préparé pour les rois et à Aman, pour venir ensemble, et là je vais faire connaître ma demande, mon désir. Ok. Les rois ne peuvent pas refuser. Aman, il sort de là tout gonflé parce qu'il dit, oh, je suis le seul que la reine a invité pour un repas spécialement pour les rois. Et moi, j'étais le seul à être invité pour ce repas. Et quand il passe sur son chemin pour aller à sa maison, il voit Mardoché. Et là, tout ça revient chez lui. La colère, il voit que Mardoché ne s'incline pas. Et il, cette nuit-là, il décide de lui demander de tuer Mardoché. Et sa femme même a dit, fais une potence très haute pour qu'il soit pendu alors. Et cette nuit, il demande de construire une potence très haute pour demander le roi le lendemain pour tuer Mardoché. Quand les rois quittent là les banquiers aussi, les premiers, ils n'arrivent pas bien à dormir non plus. Je ne sais pas qu'elle était, on sait qu'elle est traversée. Ils n'arrivent pas bien à dormir. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit? Il a les serviteurs là, il demande, oh, lis-moi les récits, les registres de ce qu'on a fait les dernièrement et tout ça. Alors il commence à lire les registres et ça revient dans le fait que, comme j'avais dit, ça va revenir, le fait que Mardoché avait dénoncé au dire qu'il y avait deux soldats proches de lui qui étaient dans un mouvement de rébellion et qui voulait le tuer, c'était constaté comme ça. Il demande, ah oui, mais qu'est-ce qu'on a fait pour récompenser Mardoché pour ce qu'il a fait pour sauver ma vie? Alors, ici, c'est rien marqué, on n'a rien fait. Alors lui, il décide d'honorer Mardoché. Et là, c'est cette pensée qu'il a pendant qu'il ne dort pas. Qu'est-ce que je vais faire pour honorer Mardoché qui a sauvé ma vie? Entre-temps, c'est déjà le matin, ça va très vite là, et il y a quelqu'un qui est dans le jardin du palais, c'est Aman. Et Aman est venu très tôt pour demander au roi justement pour pendre Mardoché. À ce moment, le roi dit, qui est là? Ah, c'est Mardoché, oh, c'est Aman, ok, fais-lui entrer parce que je veux lui parler, il fait tout de suite. Le roi lui dit, Aman, qu'est-ce qu'on doit faire pour honorer un homme qui a fait une grande chose là? Aman, il pense, à qui le roi veut honorer si ce n'est pas moi? Hein? Alors... il dit les meilleures choses, il dit, oh, il faut, on a l'impression quand il demande ça qu'il veut être à la place du roi. Donc il faut mettre un manteau royal, il faut monter sur le cheval du roi, il faut une couronne, il faut qu'on passe sur la ville, on dise voici ce que le roi fait pour ceux qui, pour récompenser, pour une gratitude à ceux qui... Donc, en pensant que c'était pour lui, le roi lui dit, écoute, c'est une bonne idée, vas-y, fais ça pour Mardoché. Et là, lui, il a dû faire ça toute la ville. Ça lui a pris toute la journée pour amener Mardoché par toute la ville pour lui donner cet honneur, hein, en reconnaissance. Voici comme le roi reconnaît et tout ça. Donc, il arrive à la maison, il est très en colère, il est très frustré. Frustration, hein? Voilà. Et tout de suite, la garde est déjà là pour l'amener pour les repas. Il n'a pas le temps. Donc là, encore une fois, les repas, il mange, il y a le moment où il boit le vin, et le roi, il est encore, alors, ma reine, c'est quoi ta demande? Qu'est-ce que tu as? Parce qu'il s'est douté qu'elle faisait tout ça, ce n'était pas pour rien. Elle voulait dire quelque chose, il n'était pas bête. Alors, il commence à demander. Oui, alors, ma demande, elle lui dit, probablement elle avait encore là. Ma demande, c'est d'avoir ma vie sauve. Moi et mon peuple, on a été vendus. Sur moi, on a été vendus comme des esclaves. À la limite, on a été vendus pour être égorgés, pour être tués, pour être détruits, petits et grands. Tout mon peuple. Le roi s'étonne, il y a de la colère dans son visage, il demande, mais qui a fait ça? À ce moment, c'est Mardoché. C'est lui. Amon. Pardon. C'est Amon. Peut-être, là il commence à comprendre, peut-être il voit aussi les décrets qu'il a signés. Il est en colère, il se lève, il va prendre un peu d'air dans les jardins pour que ça, voilà, ça agisse. À ce moment-là, Amon, il voit la colère dans les visages du roi. Il voit sa situation. Et que la reine aussi est juive, je pense que c'est le désespoir. Les rois, entre-temps, il est en train de réfléchir, j'ai réfléchi. Oui, j'ai compris, il m'a manipulé, mais ça ne peut pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Il revient, disposé à faire quelque chose. Entre-temps, Esther aussi, elle s'est. Apparemment, elle s'est mise à son lit, elle a pris un peu de distance. Et Amon, comme il se voyait déjà perdu, il s'y jette sur son lit pour lui demander la clémence, implorer la pitié à Esther. Mais quand le roi ouvre les portes, il voit un homme, Amon, dans le lit avec Esther, il crie dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train aussi de vouloir la tuer ici? Ensuite, tout de suite, les gardes le prennent. Et un des gardes dit, lui, il a même préparé une potence pour Mardoché. Alors les rois, tout de suite, ils décident. Alors, mettez-lui sur cette potence. J'espère qu'on peut aller vite fait sur une autre histoire qui c'est plus ou moins dans le même sens. Alors, si on peut, les deux chroniques 32. Deux chroniques 32, verset 10. On peut aller moins, mais. Deux Chroniques 32, versets 10 à 21. on est maintenant plus ou moins 300 ans avant, avant le royaume qu'il soit déporté en Babylone. Il y avait les rois d'Assyrie qui avaient siégé Jérusalem pour l'attaquer. Donc ainsi parle Sennacherib, roi d'Assyrie. Sur quoi repose votre confiance? Or, oh, que vous restiez à Jérusalem sans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie », n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main? Pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Les serviteurs de Sennacherib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre en suivant pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en exprimant ainsi contre lui, de même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sennacherib criaient à haute voix en langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et ne pouvoir ainsi séparer de la ville. Il parlait des dieux de Jérusalem comme des dieux du peuple de la terre, ouvrage des mains de l'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier ce jour à ce sujet. Ils criaient au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi fut confus, retourna dans son pays, il entra dans la maison de son Dieu. Et ce qui sortait de ce... Okay. Donc voilà, les Assyriens avaient déjà pris d'autres villes fortes à côté de Jérusalem. Et là, ils siégeaient. Ils envoient ces lettres, même dans la langue locale, afin d'insulter non pas seulement le Dieu, mais le peuple aussi. Pas seulement le peuple, mais aussi Dieu, de cette façon-là. Et là, le texte nous dit que Dieu, qu'ils ont prié et que Dieu a envoyé un ange. En Ésaïe, puisque c'était le prophète Ésaïe, en Ésaïe, si on peut l'afficher aussi, Ésaïe 37, 36, Ésaïe nous donne encore un petit détail de ça, si quelqu'un peut lire, Ésaïe 37, 36. Ah voilà, en volontaire.
L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts.
Voilà. Donc c'est 185 000
oui.
Un ange de l'Éternel. Dans le texte, là, il nous disait que c'était des hommes vaillants, des commandants, des généraux. J'imagine que l'ange, il tuait les autres qui n'étaient pas vaillants. C'était quoi, qui avaient peur, ils s'enfuyaient. Donc ils avaient la vie sauve. Mais les autres là qui étaient des vaillants, peut-être qu'ils disaient, oh, on peut les battre celui-là. Il essayait de tuer l'ange, mais ils étaient tous perdus. Même les commandants, allez on y va, à 3, 4, 5, et ils ont été tous 185 000, un seul ange. Alors, dans le livre d'Esther, on voit des circonstances, des rencontres, que Dieu agit d'une façon à apporter la délivrance. Des circonstances, des événements, Dieu agit. Et ici, c'est une manière tout à fait extraordinaire. Hein? On dirait, un ange, tu vois, 185 000 hommes, c'est quoi? Un ninja exterminateur de futur, quelque chose comme ça. Hein? Donc c'est extraordinaire. C'est vraiment la puissance de Dieu qui a agi dans ces cas. Parce que les rois d'Assyrie avaient aussi offensé notre Dieu. Donc, mais là, il nous dit aussi qu'il avait la prière. Ésaïe, Ézéchias, il invite le prophète Ésaïe à prier. Et là, c'est une prière que je suis sûr qu'on a entendue. C'est si on prie, Seigneur, délivre nous du mal. Seigneur, délivre cette personne, cette vie. Pourquoi je suis sûr? Parce que c'est dans la prière que Christ lui-même il a enseigné. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, et à la fin il dit, délivre-nous. Une autre fois aussi, Jésus-Christ, il a prié, Père, je ne vous demande pas de vous enlever du monde, mais de les délivrer du mal. Donc, cette prière, c'est sûr qu'on est entendu, soit pour nous-mêmes, soit pour quelqu'un d'autre. Seigneur, délivre-nous de mal. C'est à lui qu'appartient la délivrance. Alors, quelqu'un peut encore me demander, mais oui, mais si Dieu, il sait toutes choses, s'il est puissant, et s'il sait que nous, qu'on a besoin d'être délivré du mal, alors pourquoi qu'on va prier? Ouais, mais justement pour ça, parce que dans sa sagesse, dans sa connaissance, dans sa vision éternelle, le Seigneur a déjà pesé le poids de cette prière pour nous délivrer. Il a déjà décidé de nous délivrer, comme il l'a déjà délivré du péché, comme il a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer, passé, présent, futur, tout est devant lui. Donc c'est une prière que nous avons, on a la certitude d'être entendu parce que c'est selon la volonté de Dieu. C'est selon ce que Christ nous a enseigné. Alors je vous encourage dans ce sens-là. On revient à l'histoire d'Esther. C'est parce que les décrets, comme il y avait le sceau royal, il ne pouvait pas être révoqué. On ne peut pas les faire revenir. Je m'avais fixé de bien terminer à l'heure. Donc, je vais vous encourager à lire les restes de l'histoire à la maison. Oh, c'est 10 chapitres, les derniers chapitres, il n'y en a que 3 versets. Donc, dans une heure, plus ou moins, vous pouvez les lire. Toute l'histoire, hein. Donc parce qu'il y aura ce qui était contre eux va tourner en leur faveur. Mais c'est bien de voir comment Dieu va les délivrer, comment ça va marcher. Et que Dieu vous bénisse dans votre lecture. Un bon dimanche.